They're gonna show you now exactly how jazz music is made. Yes. Jesus, what?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'épisode 4 de notre série Le roman du jazz, From Swing to Bop 1935-1953. Crise s'efface, les bons jours sont de retour, les orchestres poussent comme des champignons. Celui de Benny Goodman les dépassant tous d'une tête. C'est la vague du swing que renforce le cinéma, la radio, les 150 000 jukebox du pays et l'industrie du disque, 10 fois plus de disques vendus aux États-Unis en 1940 qu'en 1930. Le temps de la prospérité, c'est aussi celui de la légitimité. C'est John Hammond, un homme bien mis, qui ne boit que de l'eau gazeuse, qui contribue le plus à construire au jazz une réputation de grande musique et lui ouvre même en 1938 les portes de Carnegie Hall. Quand, après l'entrée en guerre, le swing sera à son tour recouvert par le bebop, Hammond et en même temps que lui, bien des témoins d'une génération, se retireront. Avec le bebop viendra Charlie Parker, l'oiseau dont le vol se terminera vite en piqué. C'est le style du jazz, la rapidité. Philippe Kaplowitz, bonjour.
Bonjour.
Le roman du jazz, c'est le titre d'une série que vous avez publiée chez Fayard. C'est celui que nous reprenons aujourd'hui. On va parler des orchestres. Vous-même avez été un homme d'orchestre.
Un petit peu, oui.
Dans beaucoup de formations, non ?
Quelques formations.
Et il y en a qui dépassent d'une tête les autres. Et c'est le cas, dans ces années 30, par exemple, en 1935, où il a fait une tournée absolument triomphale, qui est restée dans les annales entourée d'une clameur historique, c'est le cas de Benny Goodman. Mais avant de parler des triomphes, le personnage, l'origine.
Alors, l'origine. Benny Goodman, il est né à Chicago en 1909, d'une famille pauvre, des Juifs originaires des pays baltes, Kutno, famille nombreuse. Et Benny Goodman va très vite se dégager, se distinguer des autres musiciens. Par un trait caractéristique, c'est un professionnel. Il ne peut pas supporter de jouer une note qui soit mal faite. Et très très rapidement, il va rejoindre le milieu des musiciens professionnels, des musiciens de danse de Chicago. C'est un des musiciens les plus jeunes à avoir sa carte du syndicat. Il joue partout, partout, partout.
Parce que, dites-vous, chaque buck, qu'est-ce que c'est un buck ?
$1.
C'est ce qu'on met dans une soucoupe. Ça construit un mur qui le sépare du quartier de ses parents et du métier de son père qui tranchait de la viande dans les abattoirs et qui portait l'odeur de la viande sur ses vêtements.
Oui, beaucoup de musiciens sont comme ça. Beaucoup de musiciens ont comme ça. Il y a un rapport très étroit entre le fric et les musiciens. Parce que un musicien, c'est quelqu'un qui fréquente toute l'échelle sociale. Les riches, les pauvres, etc. Et le besoin de se distinguer, surtout quand on vient d'un milieu pauvre, de quitter la sueur. Vous voyez ce que je veux dire? La sueur de s'en dégager est très important. Et le fait de gagner de l'argent, c'est à la fois matériel et très très symbolique. Hein. On est payé par son talent.
Sauf que chez les salariés musiciens, de Benny Goodman, on gagnait pas tant que ça et on était obligé de travailler d'arrache-pied.
Mais oui, je vous ai dit, c'est un professionnel, c'est un chef d'orchestre qui mène ses musiciens à la schlingue. Il a très très peu d'humour, il faut que ça tourne. C'est un petit entrepreneur aussi. Hein.
Mais dites-nous quand même une expérience personnelle, un musicien d'orchestre, et chez Benny Goodman plus que chez d'autres, c'est pas seulement quelqu'un qui interprète, c'est quelqu'un qui ferme sa gueule.
En tout cas, dans les années 30, oui, c'était comme ça. Oui, c'est le temps où les orchestres ressemblaient à des usines. C'est le temps du taylorisme. Et c'est le taylorisme en musique aussi. Hein. Chacun est à sa place et on n'a pas intérêt à l'ouvrir. C'est le chef qui décide. Et quand on est musicien de jazz un petit peu, on a une toute petite partie pour soi, pour improviser. Rien de plus.
Mmh. les musiciens d'orchestre, ils sont, dites-vous, rivés comme des chèvres à leur piquet. Imaginez ce qu'observaient dans la salle les musiciens de Benny Goodman pendant qu'ils jouaient.
Énorme surprise pour eux, énorme surprise. Ils voient jusqu'à 30, entre 35 et 38, ça mijote. Ils jouent dans des endroits, ils jouent dans des grands hôtels, c'est bien habillé, ça danse tout à fait tranquillement. Et à partir de 38, année du swing, ce qu'ils voient leur apparaît...
Frotti-frotta, peut-être.
Frotti-frotta, oui, oui. Frotti-frotta, mais plutôt gigotti-gigota. Ça bouge beaucoup, hein. Et c'est le moment où une catégorie de population vient au monde, si on peut dire, les teenagers. Alors, les teenagers, ils sont habillés comme des... ce sont les futurs Zazou, hein. Ils ont un zoot suit, ils ont un costume serré aux hanches, pantalon serré, les cheveux poussent un petit peu, et le cavalier envoie sa cavalière en l'air, en dansant, hein.
Vous dites que c'est comme des ressorts qui, tout d'un coup,
oui,
se détendent.
Oui, mais on avait, c'est tout à fait nouveau. Boris Vian, un petit peu plus tard, écrira des choses tout à fait, extraordinaire là-dessus, sur Coco et Coco qui dansent. C'est le temps des surprises parties. Chacun extrêmement bien habillé. Et puis, on a entendu l'orchestre de Goodman s'est lancé par le batteur Gene Krupa qui joue sur son tom médium, un rythme un peu africain. On sent que le monde s'ouvre à lui-même aussi en même temps.
Et s'il y a des surprises parties, c'est parce qu'il y a des disques. Et s'il y a des disques de jazz, c'est parce qu'il y a des maisons de production qui consentent une petite place au jazz. Et des amateurs qui deviennent des professionnels et qui sont même tentés de donner des conseils aux musiciens. Un jour, un jeune homme, bien mis, parfait sous tout rapport, héritier d'une fortune de surcroît, se penche vers Benny Goodman et lui dit « Mon pauvre monsieur, ça va pas du tout, c'est trop commercial, c'est pas ce qu'il faut faire ».
Oui, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce monsieur s'appelle John Hammond, héritier d'une belle famille, les Vanderbilt, qui a construit une partie du réseau ferré aux États-Unis dans le Nord-Est. Et John Hammond a découvert le jazz en Europe, hein. Sa famille fait des fréquents voyages en Europe, comme toutes les bonnes familles américaines. Et c'est d'Europe qu'il entend cette musique. Et pour lui, c'est... quelque chose commence. Alors la musique commerciale dont vous parlez, pour lui, il a une expression qu'il a définie en anglais, it stinks, ça pue. La musique commerciale pue. Et quand Benny Goodman, qui est un bon professionnel et qui veut jouer toutes les musiques qui marchent, à chaque fois qu'il se lance dans la variété, Benny Goodman lui dit, it stinks man, fais pas ça. Fais pas ça, il y a une seule musique qui vaut la peine, c'est la musique de jazz, vas-y, entre dans la danse.
Enfin, il est furieux, Goodman, surtout que le type lui colle au basque, qu'aux emblèmes de la nuit,
ah oui,
dans les boîtes, il boit de l'eau gazeuse.
Ouais, c'est un emmerdeur. C'est l'emmerdeur par définition. John Hammond, c'est le donneur de leçons, hein. C'est le puritain. Et Benny Goodman est donc le premier surpris de voir que la musique puriste que veut lui faire jouer John Hammond, ben c'est cette musique qui envoie en l'air les jeunes gens des États-Unis.
Oui, parce que les recommandations de John Hammond sont accompagnées quand même de propositions. C'est trop cloisonné ce que vous faites, Monsieur Goodman. Et il lui propose de composer des orchestres mixtes.
Ah oui, alors ça c'est la grande idée de John Hammond. John Hammond est un militant de la cause noire et de la cause mixte, comme on disait entre deux guerres, de l'intégration. Et pour lui, rien n'est pire que le cloisonnement, rien n'est pire que de voir des blancs d'un côté, des noirs de l'autre. Ça l'insupporte, it stinks là aussi. Et donc... Le maillon faible de tout ça, c'est Benny Goodman, qui peut entendre cette chose-là. C'est le moment aussi où entre juifs et noirs, ça marche très bien. Et il lui dit, tu dois avoir des musiciens noirs avec toi. Et c'est ainsi que, bon, une des premières expériences, 32-33, Benny Goodman accompagne Billie Holiday. Présenter des orchestres comme ça, bicolores, c'est quelque chose d'abord qui ne se fait pas. Et John Hammond va l'imposer.
Et à la fin de la décennie, il l'emmène et d'autres avec lui à Carnegie Hall.
Alors tout d'abord, oui, cette entrée à Carnegie Hall va énormément faire parler d'elle. D'abord, le concert est un énorme succès. Et un des musiciens...
On va entendre un extrait dans un instant. Oui. Ah, oui.
Harry James dira... J'ai l'impression d'être une putain qui entre dans une église. Et voilà ce qu'écrit John Hammond pour présenter ça, parce que ça dit exactement la place du jazz à l'époque. Une musique que personne ne connaît. Quoique présente un peu partout en Amérique, la musique que vous allez entendre au cours de ce concert est quasiment inconnue du public cultivé. Durant le 19e siècle, les Blancs avaient approché la musique noire à travers les formes bâtardes du cakewalk, du minstrel, du coonsong. Des Blancs au visage recouvert de cire l'interprétèrent dans des choses, et à ce moment-là, on toucha le fond de la caricature.
Alors, puisque vous êtes le truchement du révérend un peu puritain qu'était John Hammond, vous allez le traduire dans son introduction In Vivo, Carnegie Hall, 38.
When I first heard Count Basie's band in 1936,
quand j'ai écouté pour la première fois l'orchestre de Basie en 1936 à Kansas City, dans un petit club, le Reno Club,
Lips Page.
Il y avait un trompettiste qui s'appelait Lips Page. Mais malheureusement, il n'est pas venu avec l'orchestre de Basie parce qu'il est devenu chef d'orchestre tout seul.
Between Lips Page and his old boss, Count Basie, for the first time since Kansas City.
Voilà, et maintenant on va écouter pour la première fois Hot Lips Page avec la section rythmique de Count Basie.
On n'a pas parlé, Philippe Gimplevis, de Count Basie, d'ailleurs.
On n'a pas parlé de Count Basie, on aurait dû. Count Basie, c'est aussi un des orchestres phares de cette vague swing, découverte de John Hammond. Donc, c'est ce qu'il raconte. Hein. John Hammond a écouté une émission de radio dans sa voiture à Chicago, une émission de radio locale. Il entend cet orchestre du Middle West et il y va directement, parce qu'il cherche des gens pour ce concert de Carnegie Hall, tend à présenter toute la musique noire, des racines jusqu'au swing. Il veut montrer que cette musique, elle a évolué, elle est complexe et qu'elle représente à la fois une aventure musicale et aussi l'âme d'un peuple. Alors en chemin, petite anecdote, il voulait évidemment un chanteur de blues. Donc il est allé avec Goddard Lieberson, qui sera un des grands messieurs classiques de la Columbia plus tard, en tournée dans le sud. Enfin, il y avait une petite ville, il voulait un type de chanteur. Ils sont arrivés dans la petite ville et le chanteur était emprisonné parce qu'il venait de tuer sa femme. Et tous les deux ont trouvé ça rigolo et bien dans le mood. Voilà. Et donc, il fait venir Count Basie à Chicago. Malheureusement pour lui, il ne l'enregistre pas. Mais en tout cas, Count Basie est une des stars de ce concert de Carnegie Hall.
On n'a pas parlé des chanteuses qui sont dans les orchestres, parce que les musiciens guettent des yeux. Ils sont rivés à leur piquet comme des chèvres. Le public, mais ils regardent la chanteuse. Et dans l'orchestre de Count Basie, un moment.
Un petit moment, oui.
Un petit moment, parce qu'elle reste jamais longtemps. où elle part d'elle-même, où elle est virée, il y a Billie Holiday.
Ah, il y a Billie Holiday, oui. Alors, il n'y a pas d'enregistrement de Billie Holiday avec Count Basie, mais elle fait une petite tournée dans le sud. Et le cas Billie Holiday est une incarnation de tout ce qu'il peut y avoir, à la fois de grandiose et de terrible dans le jazz. Donc elle a pas la couleur qu'il faut, elle.
Elle est dorée.
Elle est pas assez noire quand elle joue avec un orchestre noir et pas assez blanche, évidemment, quand elle joue avec un orchestre blanc. Et quand elle est avec Count Basie, orchestre composé de musiciens noirs, sa peau trop claire fait que elle n'a pas le droit, tout simplement, en tournée dans le sud, d'être dans les mêmes hôtels que les autres musiciens de l'orchestre. Par ailleurs, c'est une fille qui a une personnalité très grande. Être chanteuse d'orchestre, avec ce que ça signifie, c'est-à-dire faire la retape, les œillades, bouger du postérieur pour le public, ça ne lui va pas. Et la greffe entre Basie et Billie Holiday n'a pas fonctionné.
C'est ça qui vous plaît chez elle, c'est qu'elle provoque souvent le rejet. Vous la préférez, au fond, à Ella Fitzgerald, qui est disponible à ce qu'on lui demande.
C'est deux types de chanteuses. Effectivement, Ella Fitzgerald, elle est professionnelle, elle fait ce qu'on lui demande, comme vous dites. Billie Holiday, elle ne fait pas ce qu'on lui demande. Et toute sa carrière va se passer plutôt dans des clubs et pas dans les beaux endroits. Donc, des cachets moins élevés. On va l'entendre dans un thème standard de jazz avec son compagnon de chœur, Lester Young.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on there without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the best, so why not take the rest? Hey, baby, take all of me.
On peut décrire, la guerre va bientôt arriver, cette vague swing à son sommet. Maintenant, Billy Holiday et les autres circulent sans arrêt dans tout le pays, d'une côte à l'autre, et pas seulement évidemment dans les fiefs du jazz traditionnel. Rien n'est plus émouvant, dites-vous, que l'été qui précède le départ à la guerre. Parce que nous, on sait ce qui va se passer.
Oui.
Ce que vont devenir les teenagers qui sont encore dans leur uniforme, les cheveux gominés.
Tout ce qui va avec. En tout cas, avant la mobilisation proprement dit, il y a la préparation de la guerre. Il y a les bruits de bottes. Ça commence avant 42, naturellement. Pour aller dans un registre un tout petit peu plus grave, il y a le cas des Noirs. Est-ce qu'ils vont être... Il y a toute une polémique. Ils n'ont pas le droit de travailler pour les industries liées à la défense nationale. Une grande marche va être organisée. Elle n'aura finalement pas lieu par un grand leader noir devant le Capitole pour exiger cela. Et dès avant 42, dès avant l'entrée en guerre des États-Unis, ça danse moins. Ça gigote moins, ça se frotte moins. Eh bien, ce monde-là est en train de disparaître.
Alors, on est en suspension, là, l'été 42. C'est le titre d'un film de Robert Mulligan. Les garçons, quand même, avant d'endosser l'uniforme militaire, se posent encore les questions de tous les jeunes gens de leur âge. Alors, ils sont devant la plage ou à la porte d'un cinéma.
Comment ça a marché? Pas mal. Qu'est-ce que t'as fait?
Oh, je l'ai tenu à nichon.
C'est pas vrai.
Pendant près de 11 minutes.
Préliminaire? Oui.
N'empêche que je sais toujours pas quoi faire. Je vais pas lui dire, on fait un coup de préliminaire.
Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin de parler.
Tu crois ça? Au numéro 2, ils disent en toutes lettres qu'il faut converser.
Oui, mais quand tu arrives au numéro 6, tu n'as plus besoin de rien dire. Tu pousses des gémissements. Des gémissements, c'est tout.
Mais elle croira que j'ai mal au cœur.
Non, elle poussera aussi des gémissements.
Ça risque de faire du chahut. Dis donc, Oscar, si je vais au bout des 12 paragraphes, je vais lui faire un gosse. Je t'assure que je tiens pas à avoir un gosse à mon âge.
Bah, prends des précautions. Mets une capote anglaise. T'as jamais entendu parler des capotes? Moi, j'ai déjà la mienne.
Oui, nichon, pas nichon. Le que faire, effectivement, quand on a 17 ans en 1942 aux États-Unis. Le jazz, c'est la soupape. Hein. Ces grands orchestres, c'est la soupape. J'ai dit souvent qu'on s'envoie en l'air. Évidemment, c'est de manière symbolique. On envoie valser sa cavalière. On essaye de l'approcher. On mime n'importe comment. Le jazz permet de mimer les gestes de l'amour. Aussi, par exemple, plus exactement, les danses liées au jazz permettent de servir de méthadone à l'acte quand l'acte n'a pas lieu. Alors, tous ces jeunes gens, évidemment, ils savent pas ce qui les attendent. 42, 1942, c'est la mobilisation. Et tout ce beau monde va partir en guerre en laissant ces dulcinés en attente. Et avec cette entrée en guerre sur les différents fronts d'opération, le Pacifique et l'Europe, c'est aussi une vague d'extension du jazz qui se produit, parce que pour tous les pays, enfin je pense à la France notamment, mais également aussi l'Allemagne, l'Amérique, c'est le jazz, et le jazz représente les États-Unis dont on est coupé. Donc, horizon d'attente, comme disent les historiens, très très grand.
Alors voilà que vous reprenez enfin votre dimension d'universitaire, Philippe Gaplowitz. C'est bien, il y a toute une génération, ou les membres d'une génération, qui vont se retirer aussi. Qu'est-ce qu'il est devenu, notre John Hammond? Il est parti, lui aussi, il a pris l'uniforme. Et puis, il va plus beaucoup s'intéresser au jazz, finalement.
Alors, John Hammond, il a lancé le département de jazz de la Columbia. Entre-temps, épisode privé, Benny Goodman épouse la sœur de John Hammond. Donc, là aussi, enfin, ça raconte une histoire des États-Unis aussi, hein, l'histoire de l'intégration notamment des Juifs. Enfin, effectivement, la nouvelle musique ne l'intéresse pas. La musique qui va arriver après, pour lui, elle est trop savante. Cela dit, son activité de directeur artistique à la Columbia va continuer. Et c'est John Hammond qui, bien plus tard, début des années 60, découvre Bob Dylan et Bruce Springsteen. Et donc, c'est tout de même... C'est le grand passeur de la musique populaire aux États-Unis. Enfin, c'est un cas extraordinaire, John Hammond.
À la fin de cette période, disparaît aussi Fats Waller, dont on n'a pas parlé. Et c'est comme un symbole.
Fats Waller, oui. Il meurt à Kansas City, lui aussi, dans un wagon, une crise cardiaque, trop d'excès, il est très gros. Vous avez raison, c'est un symbole. C'est le symbole du jazz qui, d'une certaine manière, ne se pose pas de questions. C'est le symbole du divertissement par excellence. Et avec lui, se termine quelque chose.
Arrive une nouvelle génération. Nous sommes dans le film de Clint Eastwood, Bird. Nous sommes à New York, viré dans les clubs, le portier, costume rouge et chapeau noir dirige les clients potentiels.
Salut, Matt.
Salut.
Hey.
Salut.
Comment tu vas? Très bien. Nous voilà au club 18. Mais oui, oui. Et Harry Gibson qui joue pour vous. Faites pas autant de bruit là-haut. Hé, Archie, tu continues à nous amener les snobinards d'Oyster Bay? Il y en a pas un pour donner un coup de courbat. Tu me fais de la peine, tu sais. Nous voilà dans la rue des rêves. Le swing fait la loi, le jazz y est roi. Hé, si vous aimez le jazz, vous êtes au bon endroit. Entrez, messieurs dames. Et maintenant, Three Deuces, B.S. Polly, le type le plus drôle et le plus salade de New York. Viva! La musique de l'avenir. Écoutez-la au moins une fois. Qu'est-ce que vous avez à faire? Oupop, chala. Oupop, mon cul. Hé, Buster. T'as enfin trouvé un costume qui te va? Où tu travailles?
J'y rejoue avec plaisir.
Ouais, tu rentres un instant à écouter le nouveau. Il y a 300 personnes là-dedans. La moitié sont des saxophonistes.
Il est pas nouveau, le gars. C'est juste Dizzy Gillespie qui se fait de la publicité. Je me souviens de Parker, il y a 8 ans, à Kansas City, quand il savait pas jouer Come to Jesus en tenant la note.
Le nouveau, c'est Charlie Parker. Il vient en effet de Kansas City. On dira jamais assez la fécondité des abattoirs dans l'histoire du jazz. Le jazz, pour vous, c'est une affaire de viande rouge. Ils jouent avec Dizzy Gillespie. Ils se répondent, en effet, l'un l'autre, longtemps. Et le mot bebop, je crois, a été prononcé.
Le mot bebop a été prononcé. Bebop, donc, on a raconté que c'est le bruit que fait la matraque d'un flic sur la tête d'un noir. C'est une nouvelle génération, hein. C'est des noirs cultivés, urbanisés. Ils sont qu'une poignée, hein. Ils sont une dizaine à New York qui réinventent le jazz et qui font entrer le jazz dans la modernité.
Le destin de l'oiseau, parce que c'est le surnom, on l'appelle aussi Bird, de Charlie Parker.
Bah, c'est un destin à la fois jazz et c'est aussi le destin de l'artiste romantique. Trop doué, déjà, immensément doué, inspiré, rhapsode, capable de faire des choses que les autres ne font pas, inventeur et à l'étroit, parce que ayant trop d'envergure dans un monde qui ne veut pas de lui. Donc la vie de Charlie Parker va être une vie assez particulière, parce que par ailleurs, pas mal de portes vont s'ouvrir, il va jouer dans des grands orchestres, il veut jouer avec des cordes, mais la reconnaissance, c'est ce que raconte le film Bird, ne vient pas pour lui aux États-Unis. Elle sera là, en revanche, en Europe, dans des tout petits milieux, c'est le moment où le jazz devient une musique pour musiciens essentiellement, une musique savante, une musique très difficile à jouer et une musique que des intellectuels ou certains intellectuels vont priser.
Voilà. C'est-à-dire que vous parlez de l'oiseau, mais on pourrait maintenant comparer l'histoire du jazz à celle du saumon qui remonte vers sa source. C'est le temps 55, on va s'arrêter là, oui. Où commence la patrimonialisation du jazz.
Je crois qu'elle ne la commence pas tout à fait là, entre la mort de Charlie Parker 53 et puis aujourd'hui, il y a des merveilleuses vagues hein, dont il faut parler. Il y a Miles Davis 59, Kind of Blue. Il y a John Coltrane qui est un créateur absolument extraordinaire. Puis ça continue après. Mais quoi qu'il en soit, le jazz ne s'écoute plus en grands hôtels ou alors c'est vraiment un jazz recuit pour bourgeois replets. Donc le jazz salle de concert. En Europe, effectivement, on peut parler de patrimonialisation, d'une certaine manière, parce que en Europe, aujourd'hui, c'est le temps des festivals, c'est le temps des concerts, la place du jazz n'est pas non plus tout à fait assurée, mais en tout cas, le jazz n'est plus la musique des bas-fonds, ça sans aucun doute, c'est une musique pour gens cultivés.
Oui, mais enfin, il y a un jazz moderne qui a d'autres caractères, mais la marge de l'histoire, c'est toujours au-dessous d'un certain seuil. Alors, si on veut aller plus loin, plus haut, régulièrement, le dimanche, 22h, minuit, Summertime, émission d'Elsa Boublil. On finit avec un titre qui pourrait être chez elle.
Oui, alors c'est John Zorn. Je voulais terminer tout de même par un morceau contemporain. Musicien new-yorkais, musicien de l'hybridation, comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'est un morceau qui s'appelle Tkoufa et de l'orchestre de John Zorn Matsada.
Demain, dernier épisode, où Philippe Gimplowitz, l'auteur du roman du jazz chez Fayard, invente une nouvelle catégorie, le Red Jazz. Il paraît que c'est le jazz chez les Rouges. L'émission a été réalisée par Marie Casanova avec la technique Charles Danet et pour la préparation Caroline Gravert, Camille Poux, Jean Aguier, Frédéric Martin et Franck Olivard.